au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? C'est un peu comme l'humidex, hein? Il fait quatre fois plus chaud des fois avec l'humidex. Ça fait que c'est quatre fois mieux d'avoir quatre bonjours. Bonjour tout le monde. C'est le 2 juillet, lendemain de la fête du Canada et de la Saint-Déménagement. Et tout ça pour dire que hier, dans certaines régions, notamment la région de la capitale nationale à Ottawa, où il y a eu, my God, il y a eu tout un orage sans... 110 millimètres de plus, c'est du monde à la messe. Fait que les festivités ont été annulées. Vous entendez donc Yvan Deslauriers qui est avec nous et Monique Quiroix qui sont avec nous aussi. Allô, allô tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous avez bonjour, passé... Oui, bonjour. Vous avez passé une belle journée du 1er juillet parce que c'était quand même relativement beau et chaud hier, hein?
Oui. Assez chaud.
Moi, je suis pas tant sorti que ça. Ouais. Moi, je travaille au recensement depuis février.
Ah oui.
Avec une journée de congé, là, comme ça, c'est comme j'ai tout arrêté, j'ai rien foutu, j'ai regardé du soccer. Je
pense. Ah ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Nous, on travaillait, on avait une émission hier. Mathieu, ça va bien, toi?
Oui, je vais très bien.
Oui, pas trop chaud pour le nounours?
Bon. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que je peux rien y faire, donc.
Et voilà, ça c'est la bonne attitude.
Je dors sur le dos.
Comme Gustave, mon chien qui dort sur le dos. Je faisais rire les gens avant qu'on aille en onde avec Gustave qui a décidé hier que il fait ça souvent. Il aime ça dormir sur le dos. Puis quand il fait chaud, je me suis réveillé cette nuit. J'avais oublié de partir la programme pour qu'elle parte à peu près une heure dans la nuit la thermopompe pour enlever l'humidité. Puis je l'ai oublié. Et quand je me suis levé, je me suis dit, mais qui ronfle comme ça? Ça ne peut pas être moi parce que je suis réveillé. C'était mon chien qui dormait sur le dos. Hein? Alors oui, on va arrêter de parler de Gustave. On va parler donc de nos sujets d'aujourd'hui. Yvan, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
J'en ai profité pour, dans le milieu de l'année comme ça, je parle beaucoup d'activité physique à chaque semaine. Mais là, on va parler de l'activité physique, mais d'un point de vue philosophique.
Ah!
Alors, d'où le titre de l'article que je vais vous présenter, « Je suis, donc je suis ».
Ah, d'accord. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis Monique?
Alors moi, j'ai choisi un article qui traite de gestion de conflits. Et ce que nous dit cet article, en fait, c'est que ça survient parfois sans qu'on s'y attende. Des fois, c'est juste un petit désaccord, mais qui peut s'exprimer au travail ou encore avec des proches. Puis tout d'un coup, c'est en conflit.
Ah.
Et ça ne viendrait pas seulement d'un manque de maturité ou des idées préconçues ou un défaut de communication. Le professeur Jean Poitras de HEC Montréal nous apprend que la réponse, c'est aussi la manière dont notre cerveau traite les différends. Alors, je vous parlais des mécanismes, justement, qui sont déclenchés par notre cerveau.
Est-ce que ça s'applique aux conflits sur les réseaux sociaux? Parce que ça, il y en a beaucoup, hein?
Il faut une discussion, il faut un échange. Donc oui, ça pourrait s'appliquer, mais on verra.
On verra.
On pourra en discuter certainement après la lecture, Denis Martin.
Parfait. Moi, je vais vous parler du cabaret des menstruosités. Ben oui, c'est le collectif drôle pour une fille qui nous présente son spectacle à compter de ce soir. Ça va faire une tournée cet été, soit qu'on va discuter de tout ça. Et le gala pour la Terre, ben oui, l'orchestre L'Agora qui fait son concert annuel depuis 2020, qui a amassé 500 000 de dollars pour aider la préservation du Saint-Laurent. On va parler avec son directeur général, Jean-Frédéric Caron. Aujourd'hui donc, 2 juillet, en 1964, le Civil Rights Act, qui est signé par le président Lyndon B. Johnson, qui met fin à la ségrégation dans les lieux publics et interdisant la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe et de l'origine nationale. Ben, ouf, ça, c'est remis en question pas mal ces jours-ci. Et puis, ben, c'est la fête nationale du Curaçao. Ça, c'est bon, hein, avec un petit peu... Ah non, on parle du pays, non pas de l'alcool bleu, en tout cas. Mais c'est bon quand même. Alors, on leur souhaite une bonne fête nationale. Et c'est la Journée mondiale des ovnis. Ben oui, le 2 juillet, on célèbre cette journée-là pour sensibiliser à l'existence possible des objets volants non identifiés et encourager la recherche et le débat sur les phénomènes inexpliqués. Il y avait une série de télévision qui disait « Je veux croire, I want to believe », voilà. Je vous ai parlé donc de cette vague de chaleur qui se poursuit et qui s'étend dans tout l'est du pays, donc le Québec et les provinces d'Atlantique. L'alerte est jaune et c'est une alerte orange en Ontario. Alors au Québec, on parle, et dans l'est des provinces d'Atlantique, on parle de maximum qui pourrait atteindre 33 degrés Celsius. La nuit, on parle de 24 degrés. C'est un peu collant, ça, quand on essaie de dormir. Et les valeurs humidex, hein, c'est autour de 40 à 42. En Ontario, on parle de valeurs humidex à 44. Indice UV de 9, donc de la crème solaire, hein, si vous ne voulez pas attraper de coups de soleil. Et on sait, ça peut mener au cancer, cancer de la peau. Puis c'est un cancer qui est en grande progression, hein, de toute façon. Risque d'orage en fin d'après-midi, pas mal partout aussi. C'est normal quand il fait chaud comme ça. C'est moins chaud dans les provinces de l'Ouest. En fait, il y a de la pluie un peu partout là aussi, et puis des orages. Et c'est de la pluie sur la côte Ouest. Puis on s'en va en musique.
Quelque chose de mieux qui t'attend là-bas. Y a quelque chose de mieux qui t'attend là-bas. Je te suis si tu veux, si t'as une place pour moi. Ça n'existe pas. Les filles sans faille, ça n'existe pas. La pire des batailles, c'est celle qu'on livre pas.
Vincent Vallière et sa chanson « Sarah ».
Dans le droit ce matin, donc, des orages d'une rare intensité ont perturbé les célébrations de la fête du Canada hier. Les précipitations torrentielles atteignant jusqu'à 110 mm localement dans la région d'Ottawa-Gatineau ont forcé l'annulation complète des spectacles du soir et des traditionnels feux d'artifice de la capitale fédérale. Et en fait, à Montréal, ce que je disais tout à l'heure, je me suis trompé. Alors, il n'y a pas eu vraiment de pluie parce que justement, on sait ça cause des accumulations soudaines, hein, puis il y a des viaducs parfois qui sont sous l'eau à Montréal. On a vu ça dans le passé. Ça ne s'est pas passé hier, mais ça ne veut pas dire que ça risque pas de se de se survenir dans les prochains jours, alors soyez aux aguets. Les intempéries ont également entraîné d'importantes pannes d'électricité, privant de courant des milliers de foyers au Québec, notamment dans la région de Gatineau, et 217 000 clients en Ontario. Alors, cette vague de chaleur, comme j'ai dit, se poursuit aujourd'hui dans l'est du pays et ça atteint les provinces maritimes. On parle donc d'avertissement de chaleur extrême pour de nombreux secteurs du Québec, de l'Ontario et même des provinces maritimes où les valeurs vont osciller entre 31 et 33 degrés. Je le répète parce que même si je l'ai dit en ouverture, c'est important de savoir parce que ce genre de température, ce genre de climat, non, ce genre de météo, ça peut être nocif pour la santé. Alors, il faut faire attention. Alors, c'est une masse d'air lourd et collant qui s'accompagne aujourd'hui d'une alternance de soleil et de nuages. Risque d'orages isolés soutenus par des rafales pouvant atteindre de 40 à 50 km/h. Les autorités météorologiques prévoient une persistance de ces conditions chaudes et humides jusqu'à vendredi pour la majorité des régions touchées, avant l'arrivée d'une baisse graduelle du mercure attendue à partir de samedi. Dans Le Devoir ce matin, la plateforme de gestion de rendez-vous Clic Santé suspend la possibilité de réserver des séances avec des thérapeutes en relation d'aide. Depuis janvier, sur les 5268 rendez-vous pris dans cette catégorie, 1519 l'ont été auprès de ces thérapeutes selon des données de la plateforme. L'Ordre des psychologues du Québec avait recommandé à Clic Santé de seulement faire affaire avec des membres d'ordre professionnel sur la plateforme pour une question de protection du public. Cette recommandation est restée lettre morte jusqu'à ce que Clic Santé décide hier de retirer temporairement les thérapeutes en relation d'aide de son offre de rendez-vous. Les thérapeutes touchés par cette suspension sont souvent représentés par des associations indépendantes comme le groupe RITMA, ne pourront plus utiliser la visibilité du portail pour offrir leurs services de soutien relationnel aux utilisateurs. Le Journal de Devoir, les États-Unis rejettent officiellement le renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique sous sa forme actuelle. L'annonce a été confirmée par le représentant états-unien du commerce, Jamison Greer, à la suite d'une réunion virtuelle avec ses homologues canadiens et mexicains, qui coïncidait avec la date limite fixée au 1er juillet. Washington souhaite utiliser ce refus pour renégocier les lacunes perçues du traité et s'attaquer aux déficits commerciaux, ciblant notamment les secteurs de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile et du bois d'œuvre. À Ottawa, le ministre responsable du commerce international, Dominique Leblanc, a réagi en affirmant que le Canada demeure pleinement engagé à l'égard du pacte commercial. Il s'est dit rassuré par les discussions, soulignant la volonté affichée de la part de la partie états-unienne de collaborer de manière constructive, mais il a quand même tempéré les attentes qu'un accord rapide avec l'administration Trump demeure, en fait, que ça demeure peu probable, alors que les milieux d'affaires pressent le gouvernement canadien de ne pas céder sur les dossiers clés, donc on parle ici de la chaîne d'approvisionnement. Le pacte trilatéral reste pleinement en vigueur et le processus enclenche une période de révision annuelle obligatoire. Et puis, on apprend une triste nouvelle. L'acteur, dans la presse d'hier, l'acteur et activiste états-unien Danny Glover annonce publiquement être atteint de la maladie d'Alzheimer. La vedette de la franchise L'Arme fatale, qui célébrera ses 80 ans le 22 juillet prochain, a révélé, lors d'entrevues accordées à NBC et au magazine People, qu'il compose avec ce diagnostic depuis 3 ans. Le comédien nommé à 4 reprises au prix Emmy et récipiendaire d'un Oscar honorifique en 2022, indique que la maladie affecte désormais son élocution et ralentit ses mouvements. Danny Glover précise qu'il refuse de capituler face à ce trouble neurodégénératif, progressif, qui affirme vouloir continuer de s'impliquer dans ses projets et ses causes humanitaires avec le soutien quotidien de ses proches. Et toujours dans la presse maintenant, 1er juillet, TikTok conclut un accord à l'amiable de principe avec un adolescent de 15 ans originaire de la Floride, évitant ainsi un projet majeur prévu en Californie. Le jeune plaignant accusait l'application ainsi que d'autres réseaux sociaux d'avoir provoqué chez lui une dépendance sévère ayant entraîné de l'anxiété et de la dépression et des troubles du sommeil depuis l'âge de 8 ans. Les termes financiers de cette entente demeurent confidentiels. Ce litige devrait servir de dossier pilote devant les tribunaux californiens où plus de 3300 plaintes similaires sont actuellement en attente. Les poursuites reprochent aux entreprises technologiques d'avoir sciemment développé des fonctionnalités addictives telles le défilement infini pour maximiser leurs profits au détriment de la santé mentale des mineurs. Avec le retrait de YouTube et de TikTok à la suite de règlements à l'amiable, projet fixé au 27 juillet à Los Angeles, ne visera que les groupes Meta et Snap.
Ah, peine arroser ma valeur, s'écoule goutte à goutte et la taille sur les pots cassés. Une histoire si bien ficelée, ton amour est fin muselé. J'suis là de c'est mon cœur qui s'est noyé. À qui la faute, à qui les mots qui glissent et vite se brisent sur ma peau. Nos larmes séchées en crasse l'écho. La tempête a crisé, le silence sonne. Y'a tes cris qui résonnent, la douleur cogne.
Naïma Frank ou Franck pour la chanson « Ainsi soit-il ».
On va parler d'activité physique et de bonheur avec Yvan Delaurier. Salut Yvan.
Bonjour Denis Martin. Alors comment l'activité physique peut nous amener à de petits et de grands bonheurs, mais d'un point de vue philosophique. Et la presse, depuis quelque temps, demande à la journaliste Marissa Grosguet de nous entraîner dans sa quête de réflexion philosophique pouvant mener au bonheur. Et cette fois-ci, elle lie cette quête de réflexion philosophique avec l'activité physique. C'est un article qui a été publié le 7 juin dans la presse. Ça s'appelle « Petit et grand bonheur, je suis donc je suis ». On le sait, le sport nous est bénéfique, selon la science.
Oui.
Mais qu'en dit la philosophie? Ces derniers mois, lorsque sa collègue Véronique Larocque arrive au bureau, elle lui semblait encore plus de bonne humeur qu'à l'habitude. Il faut dire que c'est une personne généralement souriante avec qui il fait bon échanger. Mais depuis qu'elle s'était mise au spinning, moi je pratique le spinning régulièrement, alors j'ai pu comprendre sa réaction. Lorsqu'elle me raconte ses cours durant lesquels elle s'évade, se dépasse, se renforce et s'amuse, je constate que ma collègue a trouvé là une façon de bouger qui lui procure à la fois les endorphines, les dopamines et autres plaisants neurotransmetteurs que l'activité physique permet, mais qui lui rapporte aussi une gratification qui semble dépasser la récompense chimique. La satisfaction se prolonge après son retour à la vie en dehors du studio. C'est en pensant à elle que je me suis demandé si la philosophie s'était intéressée aux bienfaits de l'activité sportive. La science sait depuis longtemps que la santé physique et mentale est améliorée par la pratique du sport. Mais les philosophes ont-ils eux aussi compris, dans leur recherche de sens et de vérité, à quel point le mouvement de nos corps est bénéfique à l'humain? Alors, selon le philosophe français Xavier Pavie, pour de nombreux penseurs anciens et contemporains, le lien entre le corps et l'esprit est inéluctable. la discipline philosophique qui passe par l'exercice de la pensée et de la réflexion se fait adéquatement seulement si on considère l'exercice du corps. C'était le point de vue de Platon, par exemple, lui-même lutteur. Vous saviez ça, sûrement, Denis Martin?
Mais non, je ne savais pas ça.
Ben voilà, Platon était lutteur.
Il était lutteur, donc c'était seulement d'être platonique son affaire, hein?
Effectivement, effectivement. Je muscle mon esprit par mon corps et je muscle mon corps par mon esprit, énonce Xavier Pavie. Ainsi, quand les sportifs disent qu'ils ont réussi un effort par la seule force de leur mental, tout de suite, j'ai fait le lien avec le film Les Boys, on comprend que c'est bien le corps qui fait, mais que l'esprit va nous traîner, ajoute-t-il. Et lorsqu'ils disent que la situation est tellement dure qu'ils ont débranché leur cerveau, évidemment, ce n'est pas possible de débrancher son cerveau, mais la force du corps permet de jouer sur l'esprit. Indissociable à bien des égards, le corps et l'esprit ont pourtant perçu de plus en plus séparément, ont pourtant été perçus de plus en plus séparément au fil des âges, avec une tendance à privilégier le second, l'esprit, au détriment du premier, le corps. Le christianisme a prêché le rejet du corps, donne en exemple Xavier Pavie. Puis, la culture occidentale a fait persister l'idée que ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe dans la tête. Dans les dernières décennies, au contraire, un penchant à faire valoir la supériorité du corps a émergé. Pensons aux universités qui accordent des bourses d'études aux très bons sportifs ou à la glorification du sport professionnel. Ces exemples que donne M. Pavie vont à l'encontre de la quête philosophique, dit-il. De plus, ils rendent la chose possible pour une partie des gens seulement. Pour maintenir le lien avec l'esprit, dans ce que le philosophe appelle l'exercice spirituel, le travail du corps doit mener à une pratique réflexive, ce que tous peuvent atteindre avec de l'effort, précise-t-il. Lorsque je fais de la marche, un exercice très important pour Nietzsche, cela peut activer l'esprit, souligne toujours Xavier Pavie. C'est parce que l'exercice est le moteur de la réflexion qu'il est bénéfique. Se plonger dans les sensations du travail physique confère aussi un aspect philosophique au sport, puisque l'on s'interroge sur ce que celui-ci a apporté au corps comme à l'âme et ce qu'il a fait naître dans l'esprit. On peut ainsi mieux se connaître et s'améliorer. Notre philosophe, M. Pavie, nous dit aussi que si je fais un marathon pour me prouver aux autres, ou même si je le fais seulement parce que j'aime la pratique de la course, je n'ai pas travaillé mon esprit. Mais si j'écris, je médite ou je dialogue pour revenir sur mon effort physique ensuite, je passe alors à un état réflexif. Pour la plupart des philosophes, c'est bien par la réflexion que l'on atteint le bonheur et que l'on s'épanouit. Le chemin qui passe par le corps est ainsi tout à fait valide, voire nécessaire. Mais revenons un petit peu à la prémisse de départ.
Oui.
Qu'en est-il donc de sa collègue, de son bonheur à elle, celle qui fait du spinning?
Oui.
Elle dit « Je ne sais pas quelle réflexion découle de sa pratique du spinning. Peut-être nage-t-elle tout simplement dans l'euphorie d'avoir trouvé une nouvelle activité plaisante. Peut-être aussi se plonge-t-elle plus assidûment dans un exercice permettant de lier son effort physique à une réflexion. Je ne lui ai pas encore demandé. Qu'il soit philosophique, car il peut l'être, ou non, le bonheur qu'elle retire de son sport m'indique qu'il y a tout à gagner à s'y mettre, surtout qu'en plus d'un effort bénéfique au corps et à la santé mentale, il est possible d'y trouver quelque chose de plus grand encore. Mmh. » Alors, c'était la réflexion philosophique de Marissa Grosguet autour de l'activité physique. Et je peux témoigner d'avoir trouvé à plusieurs reprises des réponses sur certaines difficultés au travail, entre autres, en courant autour d'une piste ou en faisant du spinning sur un vélo. C'est comme si l'effort physique nous permettait de voir les situations de la vie de tous les jours d'une autre façon. Et donc, j'étais très accroché par cette réflexion sur le lien entre le corps et l'esprit.
Je ne veux pas trop en ajouter parce qu'il reste pas beaucoup de temps, puis on a un autre sujet dont on veut discuter, mais moi j'avoue que lorsque je fais de la musculation, il faut que je me concentre sur ce que je fais. Je ne pense pas à autre chose que ce que je fais, mais c'est lorsque je fais du cardio. C'est incroyable oui. Comment il y a plein d'idées qui me passent par la tête et finalement, des fois, je dicte à mon téléphone, il ne faut pas que j'oublie ça, pendant que je fais du sport. Alors, on parle de cardio, puis on parle que quand on fait du cardio, on sue, et il faut s'hydrater.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est dans Vélomag. Je passe seulement quelques instants sur cet article. Sauf qu'avec les températures qu'il fait présentement, c'est très important de se rappeler ces situations-là. Oui. Alors, on parle entre autres de quelle quantité de liquide boire et à quelle fréquence. Chaque sortie devrait commencer en étant parfaitement hydraté, car le corps ne s'adapte pas à la déshydratation. Il la subit. Alors, dans les recommandations, on dit consommer 500 ml, donc un demi-litre de liquide, 2 heures avant l'effort, et un autre demi-litre supplémentaire, environ 15 minutes avant un exercice prolongé. Mmh. Donc, il faut commencer avec en ayant plein d'essence dans notre petit moteur.
Remplir la citerne.
Oui. La consommation de liquide doit se faire dès le début de la sortie, surtout par temps chaud, dans le but de minimiser le degré de déshydratation et de maximiser la biodisponibilité des liquides ingérés. Une hydratation régulière adaptée à la température extérieure et à l'intensité de l'effort physique est indispensable. Il est bon de se rappeler, puis ça, je l'ai appris un peu à la dure à un moment donné, il est bon de se rappeler qu'on ne doit pas se fier au sentiment de soif pour boire, car on peut être déshydraté avant même que l'envie de boire ne se fasse sentir.
Ah bon?
Et on suggère ici de boire à toutes les 15 à 20 minutes de petites quantités de liquide, 120 à 180 millilitres, tout au long de l'effort. Et si la température extérieure est très élevée, un peu comme maintenant, augmenter l'apport hydrique et considérer la prise d'une boisson pour sportifs contenant des électrolytes ou des suppléments d'électrolytes en capsule ou en comprimé à mâcher. On pense au Gatorade de ce monde.
Ben, bon conseil.
Puis n'oubliez pas le sel. C'est vraiment bizarre, mais manger un pretzel, par exemple, à un moment donné, ça vaut la peine parce que c'est un apport en sel qu'on perd énormément dans la sueur.
Ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Yvan Delaurier. Puis après la pause, Monique Kirois qui vient nous parler, elle aussi, dans sa chronique. On va discuter des conflits qui peuvent nous rendre idiots. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je n'en ai plus d'hiver. bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. Que t'aurais pas Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta valentine.
La chanson Mélodrama avec Dicis et Théodora.
Les conflits peuvent-ils nous rendre idiots? Pourquoi nous rendent-ils idiots? C'est possible. Moi, j'espère que c'est pas de moi qu'on va parler dans cette chronique-là, Monique, parce que j'avoue, là, que sur les réseaux sociaux, moi, j'en ai assez. Là, je bloque les gens quand ils sont quand ils deviennent toxiques et intolérables.
Ouais. C'est pas en lien avec les réseaux sociaux, mais comme on l'évoquait en présentation, Denis Martin, peut-être qu'on pourra voir comment
adapter ça s'applique, ouais.
Ce qui est dit dans cet article, qui a donc été rédigé par Jean Poitras, qui est professeur de gestion de conflits, entre autres, à HEC Montréal. Alors, un constat s'impose justement pour ce professeur après des décennies à observer et à intervenir dans la gestion des conflits. Il nous dit que même les personnes les plus compétentes peuvent perdre une partie de leur lucidité lorsqu'un désaccord devient menaçant. L'intelligence, l'éducation ou l'expérience, ben, ça ne protège pas entièrement contre ce phénomène. Des individus habituellement capables d'analyse fine peuvent alors se montrer rigides, réagir de manière impulsive ou refuser une solution pourtant raisonnable. Notre cerveau ne traite pas le conflit comme un simple problème logique à résoudre. Il active aussi des forces émotionnelles et neuropsychologiques qui influencent la perception de la situation, l'interprétation des intentions de l'autre et le choix des réponses. Les parties ne se comportent donc pas comme des négociateurs rationnels. Leurs émotions peuvent les pousser vers la défense de soi plutôt que vers la recherche de compromis. Il va sans dire que sur les réseaux sociaux, on n'est pas face à face, hein, et on ne peut pas non plus voir quelle est la réaction, comment la personne se comporte physiquement peut-être. En tout cas, on y reviendra. Trois mécanismes jouent ici un rôle central. Comprendre ceux-ci ne revient pas à justifier les comportements agressifs ou destructeurs. Cela permet plutôt d'intervenir au bon endroit. Alors, voici les trois mécanismes. Le premier, la réaction de stress. Le cerveau peut interpréter le conflit comme une menace et activer une réponse de stress. Notamment, à ce moment-là, le système sympathique associé à la libération d'adrénaline. Ce réflexe prépare l'organisme à réagir rapidement. Alors, on peut fuir, attaquer ou se défendre, ce qui peut s'avérer utile en situation de danger. Mais ça comporte un coût. Associée à l'inhibition et au jugement se retrouve réduit au profit de ripostes plus rapides et émotionnelles. Autrement dit, on réagit plus vite sous l'effet du stress, mais notre capacité, elle, à résoudre des problèmes diminue. On pourrait dire de façon métaphorique qu'en situation de conflit, on perd temporairement quelques points de quotient intellectuel. D'où le titre idiot d'où le mot idiot dans le titre. Le deuxième mécanisme consiste en la menace à l'image de soi. En effet, la personne ne perçoit pas toujours seulement un désaccord sur le fond. Elle peut aussi sentir que sa compétence, sa valeur, son statut ou sa légitimité sont remis en question. Lorsque cette menace s'active, la priorité cognitive se déplace. L'individu cherche alors à protéger ou à restaurer son image, son statut ou sa valeur sociale, au lieu de chercher d'abord un compromis. C'est comme si l'aiguillage du cerveau quittait la voie de la résolution de problèmes pour se diriger vers la protection de la face. Le troisième mécanisme consiste en la rumination émotionnelle. Quand quelqu'un vit une déception profonde, une trahison ou l'impression que l'autre n'a pas respecté un contrat social, il peut continuer à y penser et à le ruminer. Une partie de son attention demeure alors ancrée à sa blessure, même si elle veut rester rationnelle. Cette rumination entretient la colère et réduit la disposition au pardon. En contexte de conflit, cela signifie que la personne n'évalue plus, seulement les propositions sur leur logique ou leur utilité. Elle les interprète aussi à travers la blessure accumulée. Résultat, une solution raisonnable peut être rejetée si elle ne répond pas aussi à un besoin de reconnaissance, de réparation ou de justice. La situation se résume donc ainsi. Vouloir rester calme, logique et centré sur le compromis ne suffit pas. En situation de conflit, le cerveau active des mécanismes de protection qui peuvent réduire notre capacité à analyser froidement la situation et à explorer des solutions créatives. Le problème ne se résume donc pas à de la mauvaise volonté. Le cerveau tend d'abord à protéger l'individu avant de collaborer. Il oriente ses ressources vers la survie psychologique, se défendre, sauver la face, réparer une blessure ou rétablir un sentiment de justice. Bien sûr, certaines personnes refoulent mieux ces réactions que d'autres, mais personne n'y échappe complètement. Le vrai piège se trouve autre part. C'est pas seulement qu'on pense moins clairement en situation de conflit, c'est qu'on ne se rend compte presque jamais sur le moment que l'on réagit plutôt agressivement peut-être. Au contraire, on a souvent l'impression de bien voir la situation, d'agir avec logique et de se justifier pleinement. Le cerveau perd en nuances, mais gagne en certitude. On ne se dit pas « mon stress, mon image menacée, mes ruminations émotionnelles biaisaient mon jugement ». On se dit plutôt « je vois clair, j'ai raison, c'est l'autre qui ne comprend pas ». Ce n'est souvent qu'après coup, une fois la tension retombée, qu'on retrouve assez de recul pour voir nos biais. Autrement dit, on ne se sent pas moins intelligent pendant le conflit, on le découvre seulement quand on recommence à penser clairement. Un constat s'impose avec l'expérience. Demander à quelqu'un de régler calmement un différend se révèle difficile lorsque son cerveau fonctionne encore en mode protection. Trois principes d'intervention en découlent. Alors, ils ne constituent pas des solutions miraculeuses, mais des repères pratiques pour restaurer une part des capacités de réflexion et rendre la résolution du différend plus fluide. La première consiste à faire redescendre la tension avant de discuter. La discussion risque de devenir plus réactive que réfléchie lorsque le taux d'adrénaline s'avère trop élevé. Si les personnes n'arrivent pas à se calmer sur le moment, bien mieux vaut prendre une pause et reprendre la discussion lorsque le système nerveux est moins activé. Ce n'est pas une fuite, c'est une condition pour retrouver l'accès à la nuance, au jugement, à la résolution de problèmes. La deuxième règle consiste à protéger l'image de l'autre. Les attaques personnelles activent rapidement la défense de l'image de soi. L'individu ne cherche plus alors seulement une solution, il cherche aussi à sauver la face. On doit donc éviter les humiliations, les accusations et les jugements. On doit admettre ses torts quand on est allé trop loin. On dira, par exemple, « j'ai peut-être dépassé les limites sous le coup de l'émotion ». Une excuse simple peut désamorcer une blessure d'orgueil avant qu'elle ne prenne toute la place. La troisième règle consiste à nommer la blessure avant de chercher la solution. Les déceptions, les sentiments de trahison ou les blessures non dites ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Au contraire, ils continuent souvent d'agir en arrière-plan et de saper la discussion. Les mettre en mots ne règle pas tout, mais cela réduit leur pouvoir souterrain. Une fois exprimées, elles cessent souvent d'agir comme un filtre caché dans le raisonnement. On peut alors revenir plus facilement aux problèmes réels et à la recherche d'une solution. La gestion de conflits demande du doigté. Avoir raison sur le fond ne suffit pas. On doit aussi éviter une multitude d'écueils. Les conflits ne se règlent pas seulement avec de bons arguments, mais aussi en restaurant les conditions psychologiques qui permettent aux personnes de redevenir capables de les entendre et peut-être un petit peu plus intelligents. On retrouve nos points perdus en quotient intellectuel à ce moment-là.
Ouais.
Alors voilà, c'était « Pourquoi les conflits nous rendent-ils idiots ?» et ça a été publié sur La Conversation le 16 juin dernier. Ouais. Alors, comment appliquer ça, Denis Martin, aux réseaux sociaux?
Oh, je ne sais pas. Je sais pas.
Moi, j'avoue que... Il ne faut peut-être pas répondre tout de suite.
Ouais, j'avoue que j'ai une relation d'amour et de haine avec les réseaux sociaux.
Oui.
Je dis toujours aux gens que sur ma page professionnelle sur Facebook, ben, je suis là comme journaliste. Je ne peux pas publier et laisser publier des mensonges éhontés. C'est souvent ce que les gens vont publier dans les théories complotistes et dans la haine. Les propos haineux, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est illégal. Et moi, à chaque fois que je regarde ça, je dis, mais je suis journaliste, j'ai une responsabilité que ce qui est publié sur ma page, ça doit entrer dans un code de déontologie.
Exactement.
Alors, je rationalise parce que si je laisse ces choses-là m'atteindre, évidemment, ça me rend fou. J'ai de la difficulté avec toutes ces personnes qui ont des propos haineux. J'ai de la difficulté avec ça.
Oui. Ben, je pense que vous appliquez d'une certaine façon une des règles, c'est-à-dire de prendre un recul aussi. Mm-hmm. De ne pas... vous avez le code de déontologie journalistique, bien sûr, qui vous dicte de ne pas réagir sur ces mensonges, peut-être, ou ces fausses...
Je les efface et je bloque les gens, point barre. J'en suis rendu là. Et puis, tu sais, je me fais accuser par certains de ne pas laisser la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi, n'importe comment, juste parce que il faut quand même que les opinions doivent être soutenues par des faits. On peut pas dire
Exactement.
N'importe quoi. Et moi, je trouve ça très important. Ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. J'ai beaucoup de difficultés avec certaines choses qui sont dites dans certaines radios. Je me dis, mais c'est pas vérifié, ça. Pourquoi on laisse ça aller? Alors, c'est ça. Mais bon, cela dit, dans les conflits interpersonnels, c'est autre chose.
Toi,
est-ce que c'est... Comment tu vis ça?
Hein, en famille, qui tourne au vinaigre, si je peux dire. Mais puis peut-être il y a une chose qui n'était pas un élément important, qui n'était pas mentionné dans l'article, c'est notre capacité d'écoute.
Oui.
Mais je dis bien d'écoute, et pas juste d'entendre, et dans le fond, de se braquer à l'intérieur de nous, on va laisser notre adrénaline, par exemple, prendre le dessus.
Oui.
Comprendre ce que l'autre nous dit, et peut-être une façon d'éviter les conflits, c'est d'inviter l'autre à expliquer sa pensée et de notre côté à poser des questions pour comprendre cette pensée-là.
Tout à fait.
Alors,
c'est quand même intéressant parce que tu sais, y a aussi moi une autre partie de moi qui dit ben le conflit c'est quelque chose de nécessaire dans la vie. C'est comme ça qu'on évolue en mettant en conflit ou en concurrence des opinions, des idées, des propositions différentes. Et on en discute. Parfois, ça peut être chaud. Moi, j'avoue, je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais j'écoutais tantôt quand tu disais quand ça devient des attaques personnelles. C'est là où ça devient problématique, je pense.
Oui. Ben c'est ça. Il faut quand même considérer, je trouve ça intéressant, les trois mécanismes-là.
Mm-hmm.
Hein? Je crois qu'il faut être conscient de ça.
Oui.
Ce qui nous permet... En fait, avoir une discussion, c'est pas être en conflit.
Non.
Alors... garder justement cet échange sain, comme vous le dites, qui stimule d'une certaine façon nos idées, qui nous confronte à nos idées peut-être trop préconçues, s'ouvrir vraiment à une autre façon de lire la situation. Je trouve que cet article-là nous donnait des pistes dans ce sens-là.
Je trouve que c'est un bel appel à la sagesse. On va aller en musique et on revient avec toi, Monique. On va parler des petites brèves et peut-être des petits conseils linguistiques aussi.
Oui.
Merci beaucoup, c'était intéressant. À tout de suite.
Plus rêver d'être à l'autre bout du monde. respirer pour un instant et tout oublier. Emmène-moi où la mer est tranquille, sous le vent, loin des gens, sur le sable des Antilles. Emmène-moi où le sol. Respirer pour un instant et tout oublier. Emmène-moi où la mer est tranquille, sous le vent, loin des gens, sur le sable des Antilles. Emmène-moi où le soleil brille encore, ah encore.
Sophie Grenier, sa chanson « Emmène-moi ».
Et on continue, nous, avec Monique Kerouac. Des brèves, « Accouchement des cachalots », c'est en solitaire ou en groupe?
Qu'en pensez-vous?
C'est une bonne question. Je n'ai pas étudié la grossesse c'est chez ces animaux-là.
Ben, ça se fait en groupe, Denis Martin.
Ben, voyons.
Alors, l'heureux événement a été observé, tout à fait par hasard, en mer des Caraïbes. Un regroupement de 10 femelles de tous âges réunies en surface autour d'une maman en train d'enfanter. Il y avait aussi des membres extérieurs à sa famille, signale le biologiste David Gruber. Ces cachalots ont monté la garde face aux éventuels prédateurs, plongé pour vérifier la fente génitale de la mère, puis soulevé ensemble le nouveau-né à la piètre flottabilité pour lui permettre de prendre ses bouffées d'air. N'est-ce pas magnifique?
Ouais.
Je trouvais que c'était une nouvelle réjouissante.
Pourquoi pas? Et l'effet de la pluie sur le riz?
Oui.
Je pensais que le riz avait besoin de beaucoup d'eau.
Oui, ben écoutez, ça va vous surprendre certainement, mais le riz entend la pluie.
Ah, j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose d'autre là-dedans.
C'était pour vous faire rire ce matin et faire rire les auditeurs.
Ben, c'est réussi.
Alors, une expérience du MIT vient de démontrer que la vitesse de germination des graines de riz augmente de 24% quand on l'expose au bruit de la pluie. L'impact des gouttes sur le sol fait vibrer leur stalo, excusez-moi, statolite. Ce sont récepteurs impliqués dans la perception de la gravité dont les mouvements stimulent la croissance. Alors, attendez, le riz entend? Ben oui, c'est une source acoustique proche, comme quand on vous chuchote quelque chose à l'oreille, explique Nicolas Macris, qui est l'auteur de ses travaux. Pouvoir percevoir le bruit de la pluie est un réel avantage adaptatif. Alors voilà.
Bon, on apprend des choses, on en apprend des choses. Et on va parler de avoir un blanc.
Ouais. Alors, les termes blanc et blanc de mémoire, vous le devinez, sont calqués sur le mot blank. Alors, en français, on dit plutôt qu'on a un trou de mémoire. Dans la langue courante, on peut aussi dire j'ai un trou, tout simplement, mais en contexte, on devine qu'il s'agit vraiment d'un trou de mémoire. Mmh. Ici, comme l'exemple que l'on donnait, c'était si son nom m'échappe, j'ai un blanc, ben, on aurait pu tout simplement dire que j'ai un trou de mémoire.
Je ne rappelle pas, tout simplement. Ouais. La seule chose qu'on aime, c'est l'échec en blanc.
Ah, ben ça.
Bon, je pense qu'il est sérieusement temps que cette émission-là se termine aujourd'hui parce que les blagues, ça ne s'améliore pas.
Je cède la place à quelqu'un de plus sérieux.
Merci beaucoup, Monique. À la prochaine.
Ben, je vous souhaite à tous un bon été parce que moi, je vous quitte et je reviendrai le 20 août.
Ben, on sera ensemble à ce moment-là.
Parfait.
Bonnes vacances.
Au plaisir.
Au plaisir.
Allez, on vibe, la tête dans le sky. Aujourd'hui, on taf, ce soir, on fly. Avion de papier, embarque avec moi. Je te vois dans mon café, maintenant, on fait quoi? Ah non, c'est rien promis, mais pour me rendre accro, t'es doué. J'entonne avec le sourire, je pense à comment on s'est trouvé. Mon soleil, tu m'éblouis, j'étais dans la tête, je dois l'avouer. T'es ma chanson préférée, t'es ma chanson préférée. Pourquoi t'es toujours dans ma tête, comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée. Donne-moi ton cas, hein. J'ai des vagues dans les veines, ou de vue dans nos verres, c'est la vie d'Aloca, hein. Avant j'étais down, mais j'ai le feu dans les yeux. Vas-y, on plane, que t'as tombé dans le ciel. Te plane et on chante, te plane et on parle, tant qu'on passe du bon temps, aucun plan, c'est seul plein.
Le monde s'était promis pour me rendre accro, t'es doué. J'entends avec le sourire, on n'a plus rien à se prouver. Mon amour, tu m'éblouis, j'étais dans la tête, je veux plus jouer. Ma chanson préférée.
Ma chanson préférée. Pourquoi t'es toujours dans ma tête, comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée.
Pourquoi t'es toujours dans ma tête, comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée.
T'es la plus jolie des mélodies. J'ai chanté ton prénom toute la journée. Je sais pas si on te l'a déjà dit.
Aujourd'hui on taf, ce soir on fly. Avion de papier, embarque avec moi. Je te vois dans mon café, maintenant on fait quoi?
Ma chanson préférée de Rimes, Emmanuel Query. Query.
Ben oui, alors j'ai le temps de vous parler de l'Ontario, le régional du 30 juin, le centre de services à l'emploi de Prescott et Russell. en Ontario, donc obtient le renouvellement de son financement fédéral par l'entremise du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Cette contribution financière de 164 000 $ permettra d'accueillir 20 nouveaux participants au sein du programme Interaction, portant ainsi à 137 le nombre total de personnes accompagnées depuis sa création. L'initiative donc est appuyée par la ministre de l'Emploi et la députée locale, qui vise donc à favoriser l'intégration durable en emploi grâce à un accompagnement personnalisé et au développement des compétences. J'ai le temps de vous dire donc qu'après la pause, on va parler avec le collectif Drôle pour une fille et son spectacle Cabaret des monstruosités. Et on va aussi parler du Gala de la Terre avec le directeur général de l'orchestre L'Agora, avec donc Jean-Frédéric Caron. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu
monter vers le ciel, car tu as dans la tête bien mieux que des ailes.
Et je dis sans même trembler que j'arrive à te ressembler.
Je suis toi et toi tu es moi, et nous sommes le monde, nous sommes bientôt
ce qu'il y a de plus beau
dans le monde.
Parce que tu m'as dit, c'est quand rien n'est prévu, tout devient possible.
On s'accorde comme une mélodie, avec toi tout devient permis. L'horizon se perd dans l'infini, fie-toi sur moi et je dis
que je te suivrai, car c'est toi, toi qui m'as délivré de ma vie,
de ma vie
qui n'allait nulle part.
Et ma vie, l'autre vie, je la sens comme une ombre. Je la sens, je la suis dans le monde.
Ce n'est qu'un début. Là, tu me joues un tour, Mathieu. Je pensais que tu étais pour désannoncer. C'est correct. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas fini. C'est une chanson de Stéphane Venn qui avait été écrite il y a de cela très longtemps. J'étais tout jeune à l'époque. Ça, oui, j'ai déjà été jeune. Et c'est repris par Star Academy. Puis pendant qu'on faisait jouer ça, je suis en liaison de visioconférence avec un collectif qui s'appelle Drôle pour une fille. Et ça dansait là-dessus. Alors, je vais vous présenter le collectif et puis on va parler de pourquoi je les reçois. C'est Aurélie Fortin, Juliette Roland-Apergis ou Apergis? ou à Pergy?
À Pergy.
À Pergy, OK. Et Marianne Verville, bienvenue à toutes les trois. On vous reçoit parce que ce soir, vous présentez, c'est le retour de, du cabaret des monstruosités.
Oui, tout à fait.
Bon, le devoir qualifie votre spectacle de joyeusement militant.
Pourquoi, oui, c'est bien.
Pourquoi avoir choisi l'humour pour parler d'un sujet qui est encore de nos jours? Je peux pas, c'est, je suis un gars, je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, mais ça semble être encore un sujet tabou de nos jours.
Je pense que oui, c'est encore un sujet tabou. Puis,
je ne vous reconnais pas, qui parle présentement?
Je suis Aurélie Fontaine.
OK. Alors, vas-y, Aurélie, vas-y. Tu répondais donc à ce, l'idée de faire de l'humour pour parler d'un sujet qui est encore pas mal tabou de nos jours.
Oui, c'est un sujet, en fait. En parler dans l'espace public, il y a encore une honte qui est liée à ça. Puis le fait d'en rire, on dirait que ça crée tout de suite un espace où tout le monde est plus confortable, où c'est inclusif aussi. Tu sais, on a envie de mettre sur la table, de dire « oui, ça nous arrive, les personnes avec des utérus, c'est quelque chose avec lequel on vit, mais parlons-en, puis ensemble, on va être plus fort. » Puis le rire, ouais, est une manière de tendre la main, je pense, à tout le monde, même ceux qui ne vivent pas de cycle menstruel.
Vous passez par une variété de genres. On parle de parodie de films, comédie musicale, match de lutte. Comment on réussit à mettre tout ça ensemble sans perdre le rythme, là?
Exact. Tous les tableaux sont différents, on change, on fait ce qu'on appelle des quick change, on change de costume, on change de personnage complètement, on change d'univers à chaque tableau. C'est vraiment, vraiment chouette parce que ça nous permet de jouer plein de choses différentes, puis aussi d'aller dans toute la gamme d'états d'âme qu'on vit durant un cycle menstruel.
Ça, c'était Juliette qui parlait, c'est ça? Aurélie.
Marianne.
Je vous mêle les trois, mais c'est parce que je ne vous avais jamais rencontré en personne avant. Alors, je sais t'excuser.
Voilà.
Mais c'est pas grave. De toute façon, vous êtes toutes les trois, vous semblez avoir un humour assez spécial. J'aimerais quand même dire qu'au-delà des rires, c'est quand même un sujet qui fait rire peut-être différemment, les gars des filles.
Oui, peut-être. C'est une bonne question. Certainement, c'est sûr que quand tu vis cette chose-là, tu as une appartenance directe à l'expérience qui te fait, c'est ça, comprendre peut-être mieux directement les choses et tout. Mais je pense que comme Aurélie disait, on cherche quand même un esprit rassembleur. Le but, c'est pas de rire des gens qui sont en ignorance, parce que même nous aussi, on s'est rendu compte à travers ce processus-là qu'on était en ignorance aussi de plusieurs choses, de plusieurs phénomènes. Je pense que c'est dû à une espèce de... C'est généralisé, en fait, cette espèce de désintérêt qu'on a socialement par rapport à ça, de peut-être de honte, de tabou qu'on cache cette chose-là. Donc, c'est comme d'inviter de tout le monde, en fait, à en rire. Puis peut-être qu'on en rit différemment, mais on en rit quand même ensemble.
Oui.
Jusqu'à maintenant, vous l'avez déjà fait. Où est-ce que les gens réagissent le plus ou réagissent le moins sans trop divulgâcher le spectacle?
Hein? sans trop divulgâcher... les gens ont tendance à bien aimer les chansons.
Mm-hmm.
Ça tombe bien parce que nous aussi, on aime bien les chansons.
Oui. J'ai vu
donc,
ça tantôt.
La formule du cabaret là, permet de faire des chansons sur des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Mm. Par exemple, une chanson sur les ballonnements.
Mm-hmm.
Fait partie du spectacle, les ballonnements ressentis pendant les syndromes prémenstruels. Donc, généralement... Les gens sont en délire.
On est en délire.
Dites-moi, est-ce qu'on peut rire du fait que souvent, quand c'est le temps du mois qui arrive, des fois, ça joue un peu sur les humeurs. En riez-vous de ça?
Oh oui. Oui.
C'est-tu correct de rire, mais pas sur le coup, parce que quand la personne est... ça va, on peut en rire après, j'imagine.
Oui. Oui, mais je pense que c'est important de d'en rire, mais je pense que c'est important d'avoir aussi comme le consentement de la personne qui le vit, là, tu sais, parce que souvent, quand la personne le vit, elle est vraiment dedans, puis elle voit pas de l'extérieur que tu sais, ça peut être la cause, peut être un débalancement hormonal, tout ça. Puis là, c'est souvent après que la personne va réaliser « Ah, oh, mon Dieu, je suis menstruée, tu sais. » Mais c'est sûr de se faire dire « Coudonc, t'es dans ta semaine. » Là, ça, ça pogne pas vraiment.
C'est même très sexiste, je dirais. Oui, c'est même très sexiste de le faire. En fait, vous riez avec et on rit pas de...
Tout à fait. Ben oui, parce qu'on en fait partie de ces gens-là qui vivent un cycle menstruel. Puis je pense que ça fait du bien aussi de rire de ça, d'avoir de l'autodérision, de s'amuser aussi à travers ça, parce que sinon, c'est long, longtemps, on le vit en fin de notre vie. Là. Fait que je pense qu'il y a de ça.
Oui, puis c'est qu'on est toujours au plein cœur d'un cycle menstruel, même quand on n'est pas dans les SPM. Tu sais, c'est ça, en fait, c'est l'éducation un peu qu'on peut faire au travers de nos spectacles, c'est que quand on a un utérus, on est toujours en train de vivre un cycle menstruel, peu importe si on est SPM, si on est en train de saigner, il y a toujours des hormones qui peuvent influer notre humeur. Donc, c'est juste d'en être conscient, ça rajoute comme une espèce de gentillesse envers soi-même, puis de conscience de ce qu'on peut être envers les autres aussi, j'imagine.
Vous êtes décrit comme des irréductibles ou des irrésistibles membres de. Ah, on dit que vous êtes quand même toute une nouveauté dans le monde de l'humour. Quel message vous souhaitez passer avec ce rôle qu'on vous accorde ou cette position qu'on vous accorde dans le monde de l'humour?
Wow, c'est une bonne
histoire. Ouais, je pose la question parce qu'on va se le dire, hein, le monde de l'humour, c'était longtemps un monde de gars qui parlaient des jokes sur leur blonde. Là, on a comme une nouveauté, une nouvelle diversité qui arrive. Et c'est quoi votre message, s'il y a un message que vous voulez transmettre dans votre œuvre?
Ben, je pense qu'il y a un message qui est qu'on peut faire de l'humour de manière intelligent, éduqué, je dis pas que l'humour de base n'était pas intelligent et éduqué, là, mais c'est juste qu'il y a moyen de rire tout en point, tout en m'informant.
Ouais, tout en informant ou tout en prenant une position. Tu sais, mettons, moi j'ai grandi avec un père qui faisait de l'humour, mais de l'humour politique, donc de l'humour engagé. Puis je pense que ça a vraiment influencé mon humour aussi, tu sais, de me dire que ah, j'ai envie qu'il y ait un propos dans les gags que je fais. Puis, ouais, c'est ça, il y a toujours eu ça dans mon arrière-pensée, que j'avais pas envie que ce soit juste comme hey, par applaudissement, combien il y en a, que la blonde, quand t'as fait, tata. T'sais, que ce soit de l'humour plus, oui, c'est ça, qu'il y a quelque chose, un propos derrière, puis un message que j'ai envie de faire passer. Puis je pense que c'est ça qu'on fait les trois ensemble, mais en même temps, sans faire du stand-up non plus. On a comme
Une autre
une autre
approche.
forme d'humour qui est pas un stand-up traditionnel.
Bon, pratico-pratique, donc vous commencez ce soir, c'est votre. Ben, en fait, vous avez déjà fait ce spectacle, je pense que vous l'avez un peu changé et érodé à nouveau. Donc vous commencez ce soir et après au Lion d'Or ici à Montréal et ça se promène, vous êtes disponible où dans les prochaines
semaines? En fait, nous restons en résidence au Lion d'Or après notre première de ce soir. On revient le 5 août et ça finit le 19. Donc du 5 au 19, on a des dates pas chaque soir, mais éparpillées du 5 au 19 août. Donc une espèce de saison strictement au Lion d'Or parce qu'on adore cette salle puis on trouve qu'elle est très, très, très pertinente pour la forme du spectacle.
Puis je vais juste terminer avec ça parce que j'ai fait une petite recherche qui me disait que l'Observatoire de la culture et des communications du Québec démontre que les productions théâtrales et humoristiques abordant de front les questions de santé et de société ont connu une hausse de fréquentation notable auprès des publics de 18 à 35 ans au cours des deux dernières années. Fait que carrément, ce que vous faites, je pense que ça attire un certain public, en fait, un bon
C'est
public.
Dans l'air.
Oui, je vais vous remercier, puis je vais à nouveau vous nommer Aurélie Fortin, Juliette Roland-Aspergy et Aspergy, tu m'avais dit, hein, c'est ça, oui? Aspergy. Je finis par le prononcer comme il faut, Aspergy.
Il n'y a pas de souci.
C'est comme moi je dis, c'est Chabot, pas de TTE. Et Marianne Verville. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vais vous voir ce soir, alors j'ai bien hâte. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Sur la mer, avec l'encre des vagues, les mots imaginaires de mon cœur en jet lag. Je t'écris sur la mer, comme on peut lire sans page, un poème éphémère qui peint ton visage. Toi dans l'eau, moi dans l'air. Moi là-haut, toi.
La chanson Jetlag de Louisa.
Alors, quand la musique classique se met concrètement au service de l'environnement, pour la quatrième édition, sa quatrième édition, le Gala de la Terre présenté par l'Orchestre de l'Agora choisit de soutenir le projet Saint-Laurent de conservation de la nature du Canada. Nous recevons donc Jean-Frédéric Caron, directeur général de l'orchestre, pour en discuter. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'engagement social et l'environnement, c'est dans l'ADN même de l'Orchestre de l'Agora, si je comprends bien.
Ben oui, exact. On est un orchestre qui a beaucoup commencé, fait ses marques là, en s'engageant dans la communauté, en s'engageant socialement. L'Orchestre de l'Agora qui a été fondé en 2013 par Nicolas Ellis, qui est notre chef fondateur, directeur artistique. Puis depuis 2013, on a fait toutes sortes de projets qui ont un impact dans notre communauté. La mission s'est un peu transposée depuis parce qu'on est maintenant un orchestre professionnel avec des musiciens qui jouent un peu partout au Québec, à Montréal. Mais l'environnement est resté la cause qu'on soutient le plus par nos événements.
Comment cette idée-là a germé au sein des personnes qui ont mis de l'avant cet orchestre?
Je vous dirais que le Gala de la Terre, c'était apparu en 2019, en fait, l'idée embryonnaire là, de ce projet-là. On a travaillé avec une philanthrope qui s'appelle Bita Catelan, qui est aussi la présidente d'honneur de l'événement, qui est très investie dans le domaine philanthropique. Puis elle avait l'idée de lier l'environnement à la musique classique, puis par un concert de musique classique, avoir un impact environnemental. Puis concrètement, ben, ça s'est traduit en trois événements depuis 2020 qui ont permis de remettre plus de 500 000 $ à différents organismes environnementaux, en fait à 5 organismes environnementaux canadiens. Puis là, ben, cette année, la nouveauté, c'est qu'on amène ce projet-là dans un festival qui est le Festival de la Naudière, qui est à Joliette, à l'amphithéâtre Fernand-Lindy, qui est peut-être le plus bel endroit dans la nature pour entendre de la musique classique. On l'a fait deux fois à la Maison symphonique ici à Montréal. Puis là, on est invité par ce festival-là, qui est le plus grand festival de musique classique au Canada, à être le concert d'ouverture ce samedi 4 juillet avec notre Gala de la Terre. Puis ce qui est particulier, c'est vraiment un concert qui rassemble toujours des effectifs assez imposants. Cette année, on a 111 musiciens sur scène dans le Sac du printemps de Stravinsky, qui est une œuvre phare du répertoire. Donc voilà, ça va être un super beau concert qui va rassembler, oui, beaucoup de musiciens, mais aussi des grands noms de la musique classique, entre autres Julie Fuchs, qui est soprano, qui va chanter dans une œuvre de Ravel. Puis notre chef, Nicolas Ellis, normalement, c'est lui qui fait des entrevues comme aujourd'hui. Je le remplace un peu, c'est rare que j'en fasse comme DG, mais lui, en ce moment, en France, en plus de nous diriger, il est directeur musical de l'Orchestre national de Bretagne. Il fait un peu le tour du monde comme chef invité à Sydney.
Bon, on n'est pas déçu de vous recevoir, Jean-François, c'est pas un problème.
C'est Jean-Frédéric, mais oui, ça me fait grand plaisir là, de vous parler du concert, mais Nicolas, qui est un jeune chef d'orchestre qui est encore en train de faire sa marque, qui est beaucoup en demande à l'international, mais là, qui va être là, qui va diriger l'orchestre ce samedi.
Bien, justement, on va parler de quelques-uns des artistes. Si j'ai bien compris, il y aura des chanteurs, chanteuses de gorge, c'est ça?
Exact.
Donc, en fait, on inclut beaucoup de choses dans ce concert.
Ben oui, en fait, on l'a fait en 2024. On avait invité Natacha Canapé-Fontaine et Elisabeth Saint-Gelais, qui est une soprano innu, parce que l'environnement, c'est quelque chose qui est très lié à la culture des Premières Nations. Puis d'avoir Lydia Etok puis Nina Segalovitz qui vont présenter cet art-là, qui est encore un peu méconnu, le chant de gorge inuit, qui est très lié à la culture inuit, puis qui vont chanter, en fait, dans une œuvre d'une compositrice canadienne qui s'appelle Katia McDissey Warren. Cette œuvre-là, elle a été créée par Nicolas en Bretagne il y a quelques années, puis il a décidé de la programmer parce que, justement, il y a un lien vraiment direct entre cette œuvre-là et l'environnement.
Il y a donc, on a parlé du Sacre du printemps, il y a aussi la Symphonie gaspésienne de Claude Champagne.
Exact.
On a choisi ces pièces-là parce que c'est relié un peu à l'environnement?
Oui, tout ça est vraiment, ce sont toutes des œuvres liées à la nature. Mm-hmm. La Symphonie de Claude Champagne, la Symphonie gaspésienne, c'est une symphonie qui a été inspirée par le fleuve Saint-Laurent dans son écriture. C'est une œuvre aussi qui est un peu moins connue du répertoire. Elle a été enregistrée par l'Orchestre de Laval il y a quelques années, mais elle est encore peu connue. C'est magnifique. C'est vraiment de la très, très belle musique. Puis on a décidé de lier cette œuvre-là puis de la jouer en hommage au projet qu'on soutient, qui est le projet Saint-Laurent de conservation de la nature Canada. Eux, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils protègent des berges les berges du fleuve Saint-Laurent, des milieux humides, des écosystèmes qui sont critiques là, au bord du fleuve. Ils ont protégé près de 115 km en fait, de rives jusqu'à maintenant grâce à ce projet-là. Puis on trouvait ça important de les soutenir puis de trouver une œuvre qui était liée en fait, à notre fleuve qui est la plus grande réserve d'eau douce de la planète.
Et justement, pourquoi cette année on se concentre sur le fleuve Saint-Laurent plus que d'autres peut-être projets environnementaux importants?
En fait, il y a toujours beaucoup de projets qui sont importants.
Il faut en choisir.
Il faut en choisir un. Ouais. Là, la nouveauté cette année, dans les années passées, on soutenait toujours trois organismes et trois projets distincts. Puis on trouvait ça difficile de laisser une place importante puis intéressante à chacun de ces projets-là. Puis là, cette année, on a décidé vraiment de s'associer à un seul projet puis de permettre à ce projet-là d'avoir une plus grande visibilité dans notre concert puis dans nos communications. Donc, c'était un peu à cause de ça. Cet organisme-là, on le connaît depuis longtemps. Un de nos présidents d'honneur des éditions passées qui s'appelle Dax Da Silva, qui est le PDG de Lightspeed, lui a été très investi dans ce projet-là, il a été sur le terrain, il nous en a parlé beaucoup. On sait que c'est un organisme qui a un impact majeur ici au Québec, puis c'était comme un choix qui allait de soi en fait, on voulait cette année les mettre de l'avant, à voir si en 2028, dans la prochaine édition, ça va être encore eux, mais cette année on a fait ce choix-là pour ces raisons-là.
Alors, au-delà des sommes amassées, quel impact vous espérez susciter chez les spectateurs, spectatrices qui seront sur place?
Bien, c'est sûr que ce projet-là, évidemment, on invite les gens, avant l'environnement, à venir profiter d'un grand concert de musique classique. C'est un projet quand même qui a gagné un prix Opus assez prestigieux en 2022, le prix de l'événement musical de l'année. Donc, musicalement, ça va être un événement fort. On veut, par la musique, toucher les gens, puis les amener à découvrir ce projet-là, puis peut-être avoir le goût de s'investir, que ce soit avec Conservation de la Nature Canada ou dans leur vie quotidienne, poser des gestes pour l'environnement. On le sait, on vit encore une crise climatique. Il y a des bouleversements partout dans le monde, ici au Québec comme ailleurs. On a vécu des feux de forêt, entre autres, là, il n'y a pas si longtemps.
On en vit encore à nouveau. Puis...
Ça reste encore un sujet où tout le monde a sa part à faire. Puis je pense que ce qu'on veut avant tout, c'est de faire vivre une expérience musicale forte aux gens. Puis si par ce concert-là, en se déplaçant ce samedi à l'amphithéâtre Fernandinizé à 19h30, les gens peuvent avoir le goût de poser un geste, après c'est libre à eux, mais on veut vraiment montrer par la musique, puis nos musiciens veulent aussi passer un message que ça compte de faire quelque chose pour l'environnement, puis de poser des gestes concrets.
Beaucoup d'artistes d'ailleurs ont des causes à cœur et puis utilisent à bon escient, je vais quand même le dire parce qu'utiliser peut toujours, mais utilisent leur notoriété justement pour faire avancer des causes importantes comme ça.
Ben oui, absolument. Puis tu sais, on parlait des chanteuses de gorge. Tu sais, je pense que c'est aussi notre devoir. Je pense qu'en tant qu'organisme culturel de laisser une place aux Premières Nations, on a des merveilleux artistes qui sont ici au Québec, là, qui représentent les Premières Nations. On va lancer un disque cet automne avec Elisabeth Saint-Gelais, d'ailleurs, qui est soprano et nous, dont je parlais. Donc je pense que en plus de découvrir la culture inuite, vivre un moment fort, je pense qu'il va y avoir plein de raisons de se déplacer samedi.
Bien, c'est les gens qui connaissent pas le chant de gorge, c'est aussi c'est un jeu hein, qui existe entre deux femmes qui font ce chant-là. Puis je pense que la première qui rigole perd le jeu. Mais en tout cas, c'est quand
c'est vraiment
très beau à voir, c'est très impressionnant. Puis on finit tous par rigoler, parce qu'à la fin, il y en a une qui va rigoler. Et on finit tous par rigoler à la fin. C'est vraiment c'est beau à voir, puis je trouve que ça fait du bien.
Ben oui, puis là, ça va être encadré dans une œuvre musicale avec orchestre. Oui. Donc, tu sais, il va y avoir quelque chose d'assez magique là, de voir ça en personne. Puis évidemment, ben, c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'il y a plus que 100 musiciens sur scène.
Faut en profiter.
Ça arrive pas souvent, même en allant dans toutes sortes de concerts symphoniques. Là, un groupe aussi large, c'est très rare. Donc,
Jean-Frédéric, ouais. C'est ceux et celles et ceux qui veulent voir ce concert. Il reste encore des billets et comment peut-on s'en procurer?
Il reste quelques billets. Donc, c'est galadelaterre.com. Il y a un lien d'achat direct. La billetterie de la Place des Arts aussi. Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site web de l'événement, galadelaterre.com. Il y a des liens directs. Puis voilà, ça va être un événement à pas manquer.
Et je pense que c'est quoi? C'est 5 $ par billet qui va à la cause? Comment
exact.
Ça fonctionne?
En fait, par billet vendu, on remet 5 $ à la cause, mais il y a quand même déjà par des grands donateurs, par différents dons. On a un encan silencieux aussi qui est sur le site web. On a amassé déjà près de 100 000 $ pour la cause cette année. Donc, je pense que chaque personne qui va acheter un billet va aussi faire un geste, mais on va être ravis d'accueillir les gens, de remplir la salle.
Jean-François Caron, directeur général de l'Orchestre de l'Agora, merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans le Moniteur acadien aujourd'hui, une initiative des plus originales voit le jour au Nouveau-Brunswick pour soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson. Jean-François Leblanc, un résident de Moncton qui a reçu ce diagnostic, s'apprête à entreprendre un tour du monde virtuel le 5 juillet, ce week-end. Installé dans un simulateur de vol ultra-réaliste dans son sous-sol, il effectuera un périple de 21 rotations s'étalant sur 5 jours. Pour ce quadragénaire, la rigueur de la simulation aérienne constitue un entraînement intellectuel quotidien, essentiel pour ralentir la progression de la maladie. L'ensemble du public pourra suivre son vol en direct sur sa page Facebook et les fonds recueillis durant l'événement seront entièrement versés à la Fondation Michael J. Fox. Et vous savez qu'au Canada, selon les données de Parkinson Canada, plus de 100 000 personnes vivent actuellement avec cette maladie neurodégénérative. Donc, c'est quand même beaucoup de monde, hein, 100 000 personnes. Je vous rappelle que on va fondre aujourd'hui, il fait chaud. Il va faire chaud jusqu'à le week-end pour tout l'est du pays. C'est un peu plus frais dans l'ouest, mais quand même, avec des risques d'orage en fin de journée, ça devrait ralentir à compter de samedi. Donc, un week-end plus intéressant pour nous. Moi, je serai de retour lundi. Hélène Denis sera de retour à compter de mardi. Je remercie Mathieu Tessier à la régie. Je remercie aussi Hélène Denis qui m'a soutenu à la recherche. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À lundi.